Bonjour à tous. À la une ce matin, un despote s'en va, mais qui va le remplacer? Le Zimbabwe fête dans la liesse la démission de Robert Mugabe. La plupart des habitants n'avaient connu que son règne. Son successeur annoncé n'a rien d'un grand démocrate. Son portrait dans un instant avec Luc Lemonnier. Il était l'artisan de l'épuration ethnique, l'homme des charniers de Srebrenica, Ratko Mladic, le boucher des Balkans, connaîtra aujourd'hui sa peine devant le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Nous sommes retournés dans son ancien fief où Mladic est toujours considéré comme un héros. Il faisait partie des premiers Français partis combattre en Syrie. 9 djihadistes sont jugés à partir d'aujourd'hui à Paris. Mais qui va garder les enfants? Une proposition de loi examinée aujourd'hui propose de renforcer la garde alternée en cas de séparation. Aujourd'hui, dans les trois quarts des cas, c'est la mère qui hérite de la garde des enfants. On en parle dans 20 minutes, Nicolas, avec votre invité.
Laurence Rossignol, ancienne ministre de l'Enfance, des Familles et des Droits des Femmes. Intervenez dès maintenant sur la garde alternée au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, Gérard Filoche qui prend la porte du PS, exclu après son tweet antisémite. Fini le tirage au sort à l'entrée de la fac. La réforme est présentée aujourd'hui au Conseil des ministres. L'aveu tardif d'Uber aux États-Unis, le géant des transports reconnaît que 50 millions de comptes ont été piratés l'an dernier. Et puis des frissons au cinéma avec un thriller venu du froid. C'est l'annonce que tout un pays attendait, salué par des scènes de liesse après 37 ans au pouvoir. L'éternel président du Zimbabwe, Robert Mugabe, s'est donc résolu à passer la main. Lâché par la rue, lâché par l'armée, lâché par ses alliés politiques, le dictateur de 93 ans a démissionné. Bonjour Luc Lemonnier.
Bonjour.
Un tyran s'en va et c'est son ancien bras droit, aujourd'hui en froid avec lui, qui s'apprête à lui succéder. Il s'appelle Emmerson Mnangagwa. Il devrait être nommé aujourd'hui président par intérim et son CV ne fait pas rêver.
Non, rien que le surnom fait peur, on l'appelle le crocodile. Pas de larmes, impassibilité totale au fond du marigot et sans pitié le moment venu. C'est comme ça qu'il a bâti sa carrière aux côtés de Mugabe, dont il est l'homme de main. Première gâchette, formé par les Chinois en Corée du Nord. C'est lui qui, au mi-temps des années 80, vient à bout de la province dissidente du Matabeleland, 20 000 morts, essentiellement de l'ethnie Ndébélé, à propos de laquelle on parlera de génocide. C'est lui qui traquera le grand ennemi de Mugabe, Joshua Nkomo. Lui qui assurera les élections de 2008 et la victoire du chef au second tour, malgré une défaite au premier. Bizarrement, entre les deux, la demi-douzaine de candidats aura jeté l'éponge ou disparu. Emmerson Mnangagwa fera tout pour Mugabe durant 4 décennies de fidélité et passera par tous les postes, défense, finance, parlement. Il fera tout aussi comme lui, la corruption, les intérêts dans les mines d'or, le patrimoine extraordinaire. C'est la fidélité de l'armée qui lui a sauvé la mise. Face à l'épouse du chef qui voulait le trône, aujourd'hui à 75 ans, Mnangagwa touche son rêve du doigt. Is no good y est arrivé.
Merci Luc Lemonnier. Avec Mugabe, c'est le doyen des dirigeants de la planète qui s'efface. Le titre revient désormais au président tunisien, 91 ans, suivi de l'émir du Koweït. 88 bougies, c'est Raoul Castro à Cuba qui complète ce podium du haut de ses 86 ans.
L'autre grand titre à l'étranger, Marc, c'est le verdict attendu pour le boucher des Balkans.
Il aura fallu 20 ans pour que la justice internationale fasse son travail. 20 ans depuis la fin de la guerre en ex-Yougoslavie, mais aujourd'hui c'est bien l'un des bourreaux de ce conflit, Ratko Mladic, qui sera fixé sur son sort devant le tribunal pénal international. À l'époque, il était le chef militaire des Serbes de Bosnie, accusé d'avoir exterminé des milliers de musulmans à Srebrenica ou lors du siège de Sarajevo au nom de l'épuration ethnique. Mladic, le paria, mais qui sur place, dans son ancien fief de palais en Bosnie, a encore son fan club. Reportage de l'envoyé spécial de France Inter, Christian Chesneau.
Pendant la guerre de Bosnie, Palais était le QG des forces serbes qui assiégeait Sarajevo sous les ordres de Ratko Mladic. À l'entrée de la ville, Momčilo Krajišnik, 72 ans, est propriétaire d'une station essence. L'homme n'est pas un citoyen lambda. Cet ancien responsable politique serbe a purgé 14 ans de prison à La Haye. Il s'étonne que Mladic soit traîné devant la justice internationale. Après son arrestation, puis son procès, Mladic est considéré ici comme une victime. Il jouit d'une grande sympathie chez les gens. C'est un héros qui a défendu son peuple. En République serbe de Bosnie, les habitants de Palais vivent dans le déni. Quand on évoque le massacre de Srebrenica, ils ne veulent parler que des violences des Croates et des Bosniaques commises contre eux. Saška Kijat est une étudiante d'une vingtaine d'années dont la famille a dû fuir Mostar pour se réfugier à Palais. Elle n'a pas vécu la guerre, mais elle est convaincue que Mladic n'a fait que son devoir de soldat.
Je pense qu'il n'est pas coupable. Et d'une manière plus générale, c'est une injustice faite au peuple serbe, à La Haye ou ailleurs.
Plus de 20 ans après la fin de la guerre, Ratko Mladic reste pour les Serbes le héros d'une histoire qu'il souhaiterait réécrire. Palais, Arthur Gerbeau, Christian Chesneau, France Inter.
Et après ce dernier verdict, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie en aura fini avec son travail et il fermera définitivement ses portes. Enfin, toujours à l'étranger, ce sera l'image du jour au Liban, le retour au pays de l'ex-premier ministre démissionnaire Saad Hariri. 3 semaines après sa démission surprise, il est rentré à Beyrouth hier soir sans dire un mot sur ses intentions. On attend maintenant sa rencontre avec le président libanais Michel Aoun, auquel il devrait confirmer son départ. Des revenants devant le tribunal correctionnel de Paris, c'est le surnom donné aux combattants djihadistes quand ils rentrent en France. 9 hommes sont jugés à partir d'aujourd'hui, tous originaires d'Orléans ou de sa région. Ils étaient partis combattre en Syrie en 2012 avant de se raviser. Ils risquent aujourd'hui jusqu'à 10 ans de prison. Charlotte Piret.
Nous sommes à l'époque aux prémices de ce qui deviendra le groupe terroriste État islamique. La frontière avec la Turquie est encore poreuse, très poreuse même, si facile à franchir pour une vingtaine de jeunes Orléanais. Ils ont entre 18 et 24 ans, convertis à l'islam pour la plupart. Ils se retrouvent régulièrement autour d'une salle de prière du centre-ville. La plupart n'ont pas de casier judiciaire, certains un emploi à la sécu pour une association dans un lycée de la ville. D'autres sont déjà pères de famille ou sur le point de le devenir. 17 d'entre eux vont décider de rejoindre la Syrie. Sur place, ils intègrent un même groupe, sont formés au maniement des armes, combattent. Des combats rebaptisés match dans leur conversation avec ceux qui sont restés à Orléans. Il est aussi question de crampons, traduisez d'armes. Mais au bout de quelques mois, les premiers rentrent. L'un est blessé au combat, l'autre sérieusement malade. La femme d'un troisième est tombée enceinte sur place. Les interpellations débutent alors. Des armes sont retrouvées, enterrées dans une jardinière. Mais 10 d'entre eux ne seront pas dans le box des prévenus. Ils sont restés sur place et morts depuis pour certains.
Et le procès de cette filière orléanaise doit durer 8 jours. Encore des soupçons d'agression sexuelle, cette fois au sein de la rédaction de la chaîne parlementaire. L'un de ses journalistes, Frédéric Aziza, a été suspendu et une enquête préliminaire ouverte par la justice après la plainte déposée par l'une de ses collègues. Aux États-Unis, c'est le studio Disney qui est éclaboussé à son tour. L'un de ses plus célèbres réalisateurs, John Lasseter, à qui l'on doit Toy Story ou Cars, est accusé de harcèlement par plusieurs employés. Il s'est mis en congé de l'entreprise.
France Inter, 8h08 au Parti Socialiste. Marc, c'était le tweet de trop.
Gérard Filoche n'est plus membre du PS. Il en a été exclu hier soir pour cause de tweets à caractère antisémite visant Emmanuel Macron. Décision prise à l'unanimité du bureau politique. Frédéric Mettezo.
Gérard Filoche était absent. La réunion a duré 1h30. Beaucoup de prises de parole, mais pour dire la même chose, Rachid Temal est le premier secrétaire du PS par intérim.
Vous savez, c'est des gens qui ont pu voir Gérard Filoche pendant des années. Donc chacun a souhaité exprimer... Quel a été son sentiment en découvrant ce tweet? Et moi, je suis ravi que le Parti Socialiste ait pu prendre une décision qui était la seule qu'appelait ce tweet. Nous sommes un parti qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
Pour l'ancien député Eduardo Rian-Sipel, le parti sort grandi de cette polémique.
Il y avait beaucoup de monde, contrairement à d'autres jours. Il y avait évidemment des gens dont la sensibilité est plus proche de celle de Filoche, des gens de la gauche du parti. Il n'y a eu aucune ambiguïté. Quand le parti est capable de réagir aussi vite, ça montre qu'on est capable de nous reconstruire, de nous retrouver sur des fondamentaux. Ça me laisse grand espoir pour l'avenir.
Gérard Filoche était membre du PS depuis 23 ans. Rue de Solferino, on est J'espère que la page est tournée.
Et pour l'intéressé, en tout cas, elle ne l'est pas tournée, cette page. Gérard Filoche annonce qu'il va saisir la commission des conflits. Il devait être technique et limité. Visiblement, ça coince. Le remaniement promis pour hier sera finalement annoncé dans la semaine, dit désormais l'Élysée. Officiellement, il s'agit de vérifier le patrimoine du ou des nouveaux entrants.
Fini le tirage au sort pour décrocher une place en fac.
La réforme de l'orientation arrive aujourd'hui au Conseil des ministres. Le nouveau dispositif baptisé Parcoursup remplacera la plateforme APB tant décrié. Concrètement, les futurs bacheliers pourront faire 10 choix au lieu de 24 auparavant. Les universités feront ensuite le tri en épluchant le dossier des candidats. Le terme de sélection a été soigneusement évité, mais plusieurs questions restent en suspens. Sonia Boran, il faudra encore les préciser lors du passage devant le Parlement.
Sur le fond, il n'y aura pas de grande surprise. Le débat portera sur les mots, sélection ou affectation selon des compétences. Tout le monde est d'accord pour supprimer le tirage au sort. Mais sur les aspects pratiques, les marges de manœuvre sont plus importantes. Exemple pour les vœux des candidats. Les élèves de terminale devront formuler 10 vœux sans ordre de préférence. Les établissements de l'enseignement supérieur devront répondre à chacun de ces vœux. Sachant qu'il y a plus de 700 000 élèves en terminale, cela fera plus de 7 millions de vœux à gérer. Le SNESUP, syndicat de l'enseignement supérieur, a fait les comptes. À raison de 5 minutes par dossier, il faudrait consacrer 500 à 700 équivalents temps plein d'enseignants-chercheurs, soit 50 millions d'euros. Faut-il alors gérer tous ces vœux par un algorithme? Faut-il les hiérarchiser? La question sera posée. Autre interrogation, faut-il rétablir le critère académique dans l'affectation? Pour l'UNEF, syndicat étudiant, cela éviterait les mobilités forcées lorsque le jeune ne trouverait pas de place dans son académie et qu'on lui proposerait une inscription dans une université loin de chez lui.
Quand respirer empêche de faire des bébés, c'est une étude publiée aujourd'hui qui nous l'apprend. La pollution aux particules fines, dont on connaissait déjà les effets sur le cœur ou sur les poumons, pourrait favoriser l'infertilité masculine. Plus on respire ces particules et plus la qualité du sperme se dégrade. À son tour, Toulouse adopte la circulation différenciée les jours de pic de pollution, justement. Seules les voitures et deux roues les moins polluants pourront désormais circuler. Il faudra s'équiper de la vignette critère. Toulouse qui rejoint Paris, Lyon, Lille, Grenoble et Strasbourg dès lundi prochain.
Et puis, il n'y a pas que les questions d'argent qui inquiètent les maires réunis en ce moment en congrès à Paris.
C'est l'autre sujet qui fâche, la fracture numérique entre les villes et certaines campagnes quand le téléphone ne passe pas et qu'Internet reste un doux rêve. Difficile de travailler ou tout simplement de communiquer. C'est le cas de cette famille qui vit dans le sud du Calvados et qui tient une entreprise de maçonnerie. Ma vie en zone blanche, reportage Victoria Coussa.
Chez les Dumont, le téléphone portable ne change jamais de place.
Ah bah, il est debout devant un pot de fleurs au milieu de la véranda.
C'est là où Marie-Laure arrive parfois à gagner de barres de réseau. Ça l'aide à gérer l'administratif de la maçonnerie qui tourne au ralenti et même en fonction de la météo.
S'il y a du brouillard ou s'il pleut, je reçois même plus les messages.
Et pour écouter les messages des clients, Florence, son mari, fait un détour entre deux chantiers dans des villes où ça capte. Mais quand il rentre le soir, il angoisse.
Que je l'ai sur le portable et puis que j'arrive pas à récupérer le message le soir, on l'aura que le lendemain matin. Et le lendemain matin, ça peut être embêtant pour une urgence, quoi.
Il y a aussi Internet qui ne marche pas. C'est plus compliqué pour Marie-Laure, pour les démarches à l'URSSAF, par exemple.
On nous impose. Maintenant, on ne peut plus passer par le papier, à croire que le papier n'existe plus. Toutes les démarches doivent se faire par Internet. Et quand je dis je n'ai pas internet, on me dit allez chez le voisin.
Une famille incomprise comme le fils Nicolas, 20 ans, grand absent des soirées.
Bon, la semaine dernière, je voulais absolument envoyer un message parce que je voulais aller voir une personne le soir même. Le problème c'est que j'ai jamais réussi à l'envoyer, c'était pour sortir. Et puis en fait tant pis. On fait ça, on va rester là.
Nicolas rêve depuis 3 ans du haut débit au village. D'ici son arrivée prévue l'année prochaine, le jeune devra encore dire non à quelques sorties entre amis.
Un reportage signé Victoria Coussa de France Bleu Basse Normandie. Des pirates à l'assaut d'Uber. Le géant américain du transport vient de l'avouer, les données de plus de 50 millions de ses clients ont été piratées à vœux tardifs, car la cyberattaque s'est déroulée il y a un an à Washington. Grégory Phillips.
Au total, ce sont 57 millions d'utilisateurs à travers le monde et 600 000 chauffeurs aux États-Unis dont les adresses électroniques et les numéros de téléphone ont été subtilisés. Le nouveau patron d'Uber, Dara Khosrowshahi, assure que ni l'historique des trajets, ni les numéros de carte bancaire, ni les numéros de sécurité sociale qui, ici aux États-Unis, servent d'identifiant n'ont été piratés. Le patron de la compagnie dit n'avoir été informé de cet épisode que récemment, mais le piratage remonte en fait à la fin de l'année 2016. Il évoque deux hackers extérieurs qui se selon plusieurs médias américains, dont Bloomberg, aurait reçu de l'argent de la part d'Uber, 100 000 dollars pour détruire les données récoltées et cacher cet incident. Ce nouveau piratage de données confidentielles n'est pas le premier aux États-Unis. Yahoo, la chaîne de supermarchés Target, l'organisme de crédit Equifax ont dû faire face à des situations analogues. Pour Equifax, ce sont les données de 145 millions de clients qui avaient été dérobées. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
La Ligue des Champions s'est terminée pour Monaco, sortie par la toute petite porte après une nouvelle défaite 4 buts à 1 hier soir face aux Allemands de Leipzig. Les Monégasques, bonnet d'âne de leur groupe, ne disputeront pas non plus l'Europa League. Qualification en revanche du Real Madrid qui a étrié Nicosie 6-0. Ce soir, le PSG, déjà qualifié pour les 8e de finale, reçoit le Celtic Glasgow.
Et si vous aimez les thrillers, voilà sans doute de quoi vous faire passer un bon moment au cinéma.
L'histoire d'une jeune femme au pouvoir surnaturel, un mal étrange qui l'habite, c'est le scénario de Thelma, signé du réalisateur norvégien Joachim Trier, qui sort aujourd'hui dans les salles. Frisson garanti, Mathieu Culeron.
C'est en apprenant la perte de ses financements pour son film Back Home avec Isabelle Huppert, finalement sélectionnée à Cannes, que Joachim Trier a l'idée de Thelma, l'histoire d'une jeune fille à l'épreuve de la vie, aux pouvoirs étranges. Joachim Trier.
J'ai regardé beaucoup de films d'horreur et de vengeance car j'étais fou de colère. Et on a commencé à avoir toutes ces idées, à se dire on s'en fout du bon goût. Tout d'un coup, on voulait faire quelque chose de plus spontané et de visuel, de cauchemardesque et d'agressif. Les idées sont venues de là. And all these
ideas came up. Thelma est un film de genre au service du cinéma de Joachim Trier et non l'inverse. Un film où la psychologie du personnage est au cœur de l'intrigue. La passion de Thelma, petite fille chrétienne de province pour une fille de son université, est traitée avec le suspense digne des films d'Hitchcock.
Je voulais parler de la perte de contrôle, de quelqu'un qui a fait taire sa passion. Son identité est en formation. Elle est en train de se découvrir. Le film parle de ça.
Thelma est une nouvelle démonstration du talent du cinéaste norvégien. Joachim Trier qui construit sa carrière à sa manière, imposant ses propres règles, y compris à Hollywood.
Thelma au cinéma aujourd'hui. Enfin, les Espagnols, Nicolas, avaient leur gordo, vous savez, leur grand loto de Noël. Eh bien, roulement de tambour, il arrive en France. La Française des Jeux va lancer son loto de Noël dès ce matin. 5 euros le ticket, c'est cher. Mais pour ce prix-là, c'est le grand frisson devant la dinde au marron avec un jackpot de 20 millions d'euros. Et en prime, Jean-Pierre Foucault pour le tirage au sort. Ça, c'est le plus beau des cadeaux.
Fantastique. Merci Marc Fauvel.